Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fais Main, votre podcast qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Elodie, qui est illustratrice depuis plus de 10 ans. Elle nous parle de ses débuts dans le métier en tant que salariée, dans l'univers du dessin animé, puis de sa bifurcation vers le métier d'illustratrice freelance. Elle est aujourd'hui épaulée dans son travail par un agent, alors elle nous raconte cet aspect-là que je ne connaissais pas du tout. Elle évoque également sa passion pour la photo et ce qui l'inspire, beaucoup l'univers de la mode et de plus en plus la nature. Elle nous parle également des missions qu'elle a réalisées, notamment des projets un peu fous pour la marque Kate Spade ou pour Stella McCartney pour lesquels elle a dessiné en direct. Vous découvrirez également les projets qu'elle prépare, notamment une formation pour aider les illustrateurs en herbe à se lancer. Allez, je m'arrête avant de tout vous dévoiler et je vous souhaite une excellente écoute.
Bonjour Elodie, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast pour un nouvel épisode. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Alors déjà, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast, ça me fait, je suis vraiment flattée. Alors moi, je suis Elodie, avec les trémas sur le E, j'y tiens beaucoup.
Oui, mais alors, comment on fait pour t'écrire Elodie avec un E et avec des trémas sur un téléphone ?
Alors, sur un téléphone, écoute, je pense que t'appuies longtemps sur le E, normalement ça devrait te proposer... Alors je sais pas, parce que je t'avoue que je fais ça machinalement et je sais même pas. Je pourrais même pas expliquer, mais franchement, des gens pensent que c'est compliqué, mais en fait, non, c'est tout bête.
Ouais. Non, effectivement, je sais que c'est pas compliqué, mais donc tu y tiens et tu préfères vraiment qu'on...
Ouais, j'y tiens, ouais.
On mette le schéma. D'accord.
Ouais.
Très bien.
Ouais, c'est ma marque de fabrique, on va dire.
Ouais, voilà. Ça marche. Là, j'y ferai attention à l'avenir.
Pas de soucis.
Donc, tu es illustratrice.
Oui, c'est ça.
Et tu t'es aussi donné une mission qui est d'aider les illustratrices en herbe, entre guillemets.
Oui. Alors, du coup, oui, tu m'as demandé de me présenter. En fait, donc, je suis illustratrice depuis 2010. Voilà, c'est vraiment mon activité principale. Et je crois qu'en 2017, un truc comme ça, j'ai commencé à écrire des articles sur mon blog pour aider des illustrateurs en herbe à se lancer et à trouver des infos qui n'avaient pas forcément à ce moment-là, en tout cas aussi accessibles, facilement accessibles à ce moment-là. Donc voilà.
Ouais. D'accord.
Et voilà.
Et alors, c'est ta formation initiale, si c'est ton... Voilà, ça a été... C'est ton métier et c'est ton activité principale et ta formation initiale.
Alors, ouais, l'illustration, c'est vraiment mon activité principale, celle qui me fait vivre aujourd'hui.
Ouais.
Avant ça, je travaillais dans le dessin animé. Parce que
oui,
j'ai une...
j'avais lu ça, oui. C'est vrai.
Ouais, j'ai une formation en fait assez polyvalente. J'étais à l'ECV de Bordeaux et j'ai une formation 2D, 3D, graphisme un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Et du coup, moi, mon objectif en rentrant dans cette école, c'était de faire du dessin animé. C'était vraiment ma passion. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, que j'avais aussi besoin d'être à mon compte, que j'aimais pas trop l'autorité et que j'avais envie de développer mon univers, tout ça. Donc après 3 ans, je pense, dans le dessin animé, j'ai fini par me lancer dans l'illustration comme ça, un petit peu sans trop réfléchir. Je suis un petit peu...
Impossible.
Ouais, enfin, j'ai tendance à, quand j'ai une idée dans la tête, à pas trop réfléchir, à être un peu, pas naïve, mais... voilà, pas trop réfléchir aux conséquences. Et voilà, je me suis lancée. Et je ne regrette pas du tout.
Ouais, je crois que c'est une qualité, hein, parce que des fois, on cogite un peu trop.
Ouais,
et,
je pense aussi.
Et on n'avance pas, quoi. Ouais.
Et le fait d'être dans l'action, des fois, c'est ce qui nous pousse justement à dire, bon, là, j'ai plus le choix, il faut que j'y aille, il faut que je fonce.
Ouais, c'est clair.
C'est un booster, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et comment tu as commencé à créer, parce que si tu t'es lancé dans cette idée de créer des dessins animés, c'est que ça veut dire que tu as toujours dessiné quand tu étais enfant et
ouais.
Tout ça ?
Ouais, ouais, voilà, ouais. Pour le coup, c'est vrai que tu es toute petite, je dessine, enfin, depuis toute petite, je voulais être dessinatrice. Tu vois, quand t'es petite, tu dis pas illustratrice, tu dis pas dessin animé, mais tu dis je veux être dessinatrice. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Et on me décourageait, évidemment, on m'a toujours découragée, mais ça, il y avait rien à faire, c'était ça. Et après, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais faire plus précisément. Pendant un temps, quand j'étais petite, quand j'étais ado, je voulais être styliste, tu vois, enfin, styliste de mode. Et finalement, non, c'est vraiment le dessin animé qui m'a donné envie de... en regardant, en fait, je me souviens très bien du déclic que j'ai eu, c'était en regardant le making-of du dessin animé Notre-Dame de Paris de Disney, qui était juste magnifique. Et j'ai eu un déclic en voyant ça. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. J'étais en quatrième, donc je devais avoir 13-14 ans.
Ouais.
Et après ça, je me suis dit, OK, je passe mon brevet et après, je vais au lycée, art plastique, enfin, la voix. J'ai essayé à partir de ce moment-là de me diriger vers ça.
Et alors, on t'a découragé, c'est quoi, c'est tes parents, c'est les équipes éducatives?
Non, bah, je pense à mon frère. quand j'étais petite, du coup... Je me souviens pas si mes parents m'ont découragée, mais je me souviens que mon frère, par exemple, me décourageait, mon grand frère. Mais bon, mais après, oui.
Ouais, c'est le rôle d'un grand frère.
Oui, voilà.
C'est le rôle
je pense que c'est. Ouais. Mais je pense qu'en fait, tous les enfants, quelque part, il y a beaucoup d'enfants qui veulent faire du dessin quand ils sont petits, mais qui après, changent de voie. Mais donc après, c'est pas donné à tout le monde d'avoir envie de persévérer, de vraiment faire un truc là-dedans. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'au lycée, je pense comme tout le monde, les conseillers d'orientation m'ont découragée, mais voilà, mais c'est pas grave. Ouais. Ouais, parce que je voulais aller au Gobelins, je crois. Je me rendais pas compte que le niveau était dingue. Et du coup, je crois que les Gobelins, ils exigeaient aussi d'avoir un niveau général, genre une moyenne de 14 ou un truc comme ça. Et je l'avais pas, donc voilà. On me décourageait aussi, mais...
Ouais.
Voilà.
La question m'intéressait aussi parce que moi, ma grande qui a 11 ans, c'est pareil, elle veut être dessinatrice. Hein, comme tu dis, elle veut pas être illustratrice, elle veut être dessinatrice.
Ouais.
Et pareil, je me dis, bon, c'est pas forcément simple comme métier pour percer. Après, sur Instagram, quand je vois le nombre de personnes qui sont illustratrices, justement, et en plus avec toujours cette question quand on est freelance de est-ce que c'est une activité où on peut gagner convenablement sa vie et tout ça, en tant que parent, c'est pas évident.
Ça peut faire peur,
se dire. Ouais, ça fait un peu peur. Mais en même temps, tu vois, c'est ce que m'apprend le podcast, hein, c'est toutes les invitées. Je ne crois pas qu'il y ait d'exception. Elles ont toutes commencé à créer dans leur enfance, dans leur jeunesse.
Mmh.
Et après, d'accord. Par contre, elles se sont arrêtées à un moment donné et elles ont choisi un métier. Comme si la création, ce n'était pas un vrai métier. Et
c'est très dévalorisé. Ouais.
Ouais.
Mais y a des raisons au fait que ça soit dévalorisé, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas en vivre et qu'il faut, je pense que bon, il y a le talent, mais il y a aussi faut avoir le caractère, je pense, de freelance, en fait, le fait d'être un peu inconsciente. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est pas naïf, c'était inconsciente. C'est peut-être un peu une part d'inconscience, mais qui fait qu'au final, on se lance dans des trucs qui nous font peur, dans des projets qui nous font peur. Là, c'est de se lancer dans l'illustration, par exemple, mais après, ça peut être d'autres projets. Je pense qu'il faut avoir cette part-là quand on est freelance, on est entrepreneur. Et du coup, pense que cette part de risque est obligatoire, je pense, pour avancer et continuer, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a une question qui revient aussi un petit peu quand on parle d'entrepreneuriat et entrepreneuriat créatif, c'est le rapport à l'argent. À la fois le côté un peu le prix des créations, l'argent gagné par rapport au salaire qui tombe un petit peu quoi qu'il advienne quand on est salarié,
mm-hmm.
alors que c'est pas le cas quand t'es freelance.
Oui.
Est-ce que toi, j'imagine qu'on te demande si tu arrives à en vivre et qu'est-ce que ça t'inspire et après j'ai eu l'impression quand même que tu parlais assez librement d'argent. C'était évidemment un sujet important, mais que tu n'évitais pas le sujet.
Ouais, j'évite pas le sujet. Après, j'en parle pas si librement que ça. Enfin, je veux dire, j'ai aucun souci qu'on me pose la question. Après, je suis comme tout le monde, c'est un peu pas toujours évident d'avoir les bons mots, etc. Mais alors moi, oui, j'ai la chance de pouvoir en vivre depuis 2011, en fait. Depuis que j'ai eu un agent, en fait, je me suis mis à mon compte en 2010, le jour de mon anniversaire. J'ai mis papier, enfin bref. Et en fait, ouais, en 2011, fin 2011, j'ai trouvé mon agent qui, là, tout de suite, m'a trouvé des contrats intéressants, enfin, des vrais contrats, quoi, en fait. J'ai tout de suite compris, du coup, que les tarifs, c'était pas ce que je pensais, voilà. Mm. C'était plus des tarifs à trois chiffres que minimum qu'autre chose, quoi. Voilà, souvent, les projets que j'avais pu faire avant, c'était genre des flyers ou des trucs comme ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'était plus 150 euros, machin. Mais tu peux pas vivre, clairement, tu peux pas vivre en faisant que des projets comme ça. Enfin, moi, avec le temps, c'est vrai que là, j'ai quand même 38 ans. Non, j'ai 37 ans encore, pardon. Pourquoi je me vieillis? C'est parce qu'on est passé, ça y est, on est en 2020, du coup, je me suis déjà vieillie toute seule. Non, pardon. Non, je pense qu'avec le temps, j'étais pas du tout comme ça avant, mais quand j'ai commencé à travailler dans l'illustration, j'étais tellement passionnée que j'étais un peu comme un hamster dans sa roue. C'est-à-dire que je travaillais, je comptais pas les heures et je m'en foutais, je travaillais par passion, limite l'argent, je m'en moquais, tu vois.
Oui.
Et maintenant, bon, bah, c'est vrai que je me dis, bah, je suis toujours aussi passionnée, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même réussir à ce que ça soit viable et que je puisse me dégager du temps, que je puisse avoir une vie sympa, etc. Donc, j'ai commencé à réfléchir à tout ça il y a 2 ans, donc, enfin, il y a 1 an ou 2, et j'ai commencé à m'intéresser aux revenus passifs. Oui. Et les revenus passifs, c'est par exemple faire un e-book qu'on va vendre, une formation ou des choses comme ça. Et en fait, bon, bah, c'était pas forcément réfléchi, mais mon blog, comme il a commencé à bien fonctionner, qu'il a commencé à avoir du passage, etc., j'ai commencé à penser à ce genre de produit. Et donc, dans un premier temps, j'ai lancé mon e-book que j'ai lancé fin 2017. Et du coup, qui a super bien marché et qui m'a encouragée, du coup, à poursuivre et dans cette voie, parce que je pense que dépendre uniquement de ses clients, c'est trop fragile, en fait. Et j'ai pas envie d'être à la merci toute ma vie du hasard. Et même si j'ai envie de continuer à faire des projets, même si, je pense que c'est hyper important de diversifier ses sources de revenus, en fait. C'est vraiment... Et ça, pour le coup, j'en ai parlé à d'autres gens qui sont entrepreneurs, pas forcément dans mon... milieu, mais qui en fait m'ont expliqué que ouais, c'était la base de l'entrepreneuriat, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en fait.
Ouais, c'est clair. Alors ça me fait penser justement si il y a beaucoup de personnes de ta communauté qui sont des entrepreneurs qui se sont déjà lancés ou qui veulent se lancer. Moi, je recommande un podcast que j'adore qui s'appelle Le Gratin. Okay. C'est Pauline Léniaud qui l'anime et donc elle reçoit des conversations avec des entrepreneurs à succès et qui viennent donner en fait leurs conseils, qui racontent leur parcours et qui apportent vraiment tout leur lot de conseils. Et c'est un super podcast. Moi, c'est un de ceux que j'écoute tout le temps et qui m'a donné aussi l'idée de ce podcast-là. Et voilà, je me souviens bien du moment où je me suis dit « Tiens, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses !» de faire un podcast avec toutes les filles que je suis sur Instagram et que je trouve que c'est trop chouette ce qu'elles font.
Mais du coup, je crois qu'on a déjà parlé de ce podcast, mais c'est bête, mais j'écoute énormément de podcasts, mais américains. C'est parce que j'ai connu les podcasts comme ça, avec des podcasts anglais, américains.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que j'ai pas le réflexe des podcasts français. Et j'ai commencé à écouter le tien. Et voilà, je t'avoue que j'ai pas tout écouté parce qu'en fait, j'avais peur de me laisser influencer.
Tu sais, ah oui, après, que, dans les réponses.
Je pense que je vais les écouter après. J'ai écouté celui de Caro From the Woodland j'ai écouté les autres après. Mais Le Gratin, ça doit être un bon podcast.
Ouais, il y a Le Gratin, effectivement. Et un mois, alors, il y en a 3 autres que j'aime beaucoup. Vlan, c'est Grégory Pouy. C'était à la base du marketing et maintenant, c'est plutôt vraiment tourné sur les questions qui font du lien à soi, du lien entre les gens. Mm-hmm. Je trouve excellent. Il y a Les Équilibristes de Sandra Fiodo, pareil, qui explore en fait la vie professionnelle et la vie personnelle, trouver l'équilibre entre les deux. Mm-hmm. Et puis il y a Oui, change ma vie avec Clotilde Dussolier. Et là, c'est pareil, c'est change ma vie. Et c'est, le compte Instagram, c'est Oui, change ma vie. Et donc, c'est pareil, c'est super bien. Enfin, moi, c'est vraiment des podcasts que j'écoute tout le temps.
Il faudrait que j'aille voir ça. Ça me changera des trucs anglais.
Aujourd'hui, donc ton médium préféré, c'est l'illustration, enfin, c'est le dessin. Tu dessines comment? Sur quel support?
Alors, j'ai changé depuis le début, mais j'ai changé de d'outils, en fait, on va dire, mais j'ai toujours dessiné sur papier. Ça, c'est un truc... Ouais. J'ai toujours dessiné une base sur papier et ensuite, je colorise sur Photoshop. Voilà, je suis pas passée à Procreate comme la plupart des gens. J'y ai pensé, mais pour l'instant, non. De toute façon, je pense que je dessinerai toujours sur papier. Et peut-être qu'un jour, je me mettrai à Procreate pour coloriser plus facilement, peut-être, mais voilà.
Ok. Et est-ce que tu as d'autres... Alors, moi, j'ai tendance un peu à tout mettre sur le rayon loisirs créatifs, mais le dessin, c'est quand même bien plus large que ça. C'est plus beaux-arts que... et arts que loisirs créatifs. Mais est-ce que dans la partie loisirs créatifs, tu as d'autres... Enfin, est-ce que tu as des... Je sais pas, est-ce que tu couds? Est-ce que tu fais du scrapbooking? Est-ce que tu fais du bullet journal? Est-ce que tu fais... je sais pas...
Alors, je fais... pas tout ça. Par contre, j'aime bien la photo. Ouais. Et c'est un truc que j'ai envie de développer plus cette année. Mais j'ai l'impression que je manque de temps. Et tu vois, enfin, par exemple, là, j'ai été faire, enfin, faire de la photo, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut regarder où c'est que tu veux prendre ta photo, voir s'il y a le soleil au bon endroit. Si tu veux te prendre en photo, toi, faut que tu prennes mon trépied parce que je fais tout toute seule. Enfin, j'adore ça. J'en fais de temps en temps. Et, mais, du coup, je me dis tout le temps, mince, tu ferais mieux de travailler au lieu de faire ça. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est, j'ai du mal à lâcher le truc et de me dire, allez, je me fais un petit kiff. Je le fais de temps en temps. Par exemple, quand je suis en vacances, sur Oléron, je me prends en photo, je m'amuse, je fais des trucs, je fais des petites mises en scène et tout, mais c'est vrai que je culpabilise un petit peu de faire ça parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend de moi? Et en même temps, je me dis que oui, parce que ça fait partie, enfin aujourd'hui, sur Instagram, etc., c'est intéressant de montrer sa vie, le côté lifestyle et tout, et ça fait partie aussi de sa communication, quoi. Donc aujourd'hui, on ne peut plus y couper, donc... voilà, ça fait partie du game, quoi. Et ouais. Vraiment, j'adore prendre des photos, je trouve ça chouette. Enfin, je m'amuse avec les filtres aussi, tout ça, la retouche, j'aime bien.
Ouais, d'accord. Et alors là, c'est intéressant ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Est-ce que si, par exemple, alors je crois que tu n'as pas d'enfant, mais non. Si tu avais des enfants, est-ce que tu irais autant dans le côté justement un peu lifestyle? Il y a beaucoup d'instagrammeuses ou d'instagrammeurs qui vont très loin dans leur vie privée entre guillemets et qui montrent leurs enfants, voilà, qui ont un sens du partage très très large. Toi, ta limite, elle se situe où? Parce que tu racontes pas non plus des trucs hyper privés.
Non, je raconte pas des trucs hyper privés. Je pense que ma limite, ouais, j'essaye de... En fait, c'est au fur et à mesure, quoi. Genre, des fois, j'ai envie de raconter des trucs. Des fois, je me dis non, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, en fait. Je m'écoute, en fait.
Ouais,
juste, je m'écoute, ouais. Et je veux pas aller trop loin. Après, c'est vrai que des fois, je vais raconter plus de choses à ma newsletter, par exemple, parce que j'ai l'impression qu'on est... C'est une communauté, du coup, plus petite.
Et
j'ai l'impression
que
c'est plus en privé. Enfin, c'est bizarre, hein, mais... Pourtant, non, mais... Mais par contre, sur Instagram, c'est vrai que je vais faire plus gaffe. Je raconte un petit peu de moi, de ma vie, mais jamais des choses trop intimes, quoi.
Oui, c'est ça.
Et si j'avais des enfants, bonne question, je pense que je les préserverais un minimum quand même aussi. Ouais. Parce qu'après, ça reste les images et c'est mignon quand ils sont petits et tout, mais après, ben, quand ils grandissent, ben, forcément, ils n'ont pas demandé à être autant... Ouais. Exposé, donc je pense que c'est quelque chose que je ferais pas, en fait. Mais, voilà. Je ne juge pas ça.
Ouais, mais je trouve que c'est difficile aussi, justement, de pas juger à la fois la vie des gens et ce qu'ils exposent et la manière dont ils l'exposent.
Ouais,
bon, c'est peut-être personnel, tu vois, effectivement, moi je suis. Enfin, c'est vraiment ambivalent parce qu'à la fois. Moi je suis exactement comme toi sur les enfants, je veux pas les exposer et en même temps c'est vrai que ça crée une relation quand même avec les créatrices que tu suis qui c'est autre chose, quoi. Tu vois, je pense à par exemple Letty Bricole qui était la première invitée du podcast, qui met en scène ses enfants dans les créations parce qu'en fait, tu vois, c'est pas le terme exposé que j'ai choisi, qui les met en scène parce que d'une part, ça les amuse, ils sont d'accord. Mmh. Et puis surtout, elle leur demande à chaque fois s'ils sont d'accord pour qu'elle publie. Mmh. Et même aujourd'hui, ils sont ados et en fait, du coup, c'est un non-sujet, quoi. Et je trouve ça bien. Et puis en plus, elle les a intégrés dans aussi les livres de couture qu'elle a publiés. Et du coup, ça fait une vraie aventure familiale, quoi. C'est pas que son projet créatif à elle. Et puis en plus, ses enfants sont super beaux.
Je trouve ça génial, quoi. Si les enfants sont d'accord, si ça les amuse, je trouve ça, ouais, c'est au contraire, hein. Enfin, c'est top, hein. Mais moi, du coup, je pensais plutôt aux enfants qui étaient trop petits pour, tu vois.
Oui, les bébés, ouais.
Enfin, après, les bébés, est-ce que, je sais pas. Enfin, voilà, j'ai un avis, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ouais. D'ailleurs, je t'avoue que je suis des blogueuses qui ont des enfants et ça me choque pas plus que ça, mais c'est juste que, moi, c'est une question qu'on se pose, est-ce qu'on ferait la même chose, ça? Je pense pas, mais après, on sait jamais, on sait pas en fait.
Ok. Aujourd'hui, quand tu t'es lancée en étant freelance en 2010, est-ce que tes proches ont été un soutien ou ils se sont dit bon, c'est peut-être un peu risqué?
Bonne question. Non, bah j'ai quitté en plus, comment ça s'est fait? En fait, je travaille dans une boîte de dessins animés et les boîtes de dessins animés, souvent c'est des missions de un an et demi, des fois c'est juste 6 mois. Et là, en fait, je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai même pas attendu la fin de la mission, je fais non, mais en fait, je m'en vais. Et en gros, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que parce que je me suis pas tout de suite mis dans l'illustration, je me suis dit, j'ai passé du temps, toute ma vie à l'école, etc. Et là, en fait, directement, je sors de l'école, qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans un métier, alors que j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des choses, etc. Et du coup, j'ai tout arrêté, je suis partie en Thaïlande pendant un mois. C'était mon premier voyage, et voilà. Et en fait, bah, j'ai réfléchi à ce moment-là. Et puis, je me suis pas tout de suite lancée dans l'illustration. Je me souviens plus trop exactement. Je l'explique, en fait, sur mon blog, mais là, du coup, j'ai commencé à redessiner, en fait, quelques années après, en fait, parce que, voilà, à la sortie de l'école, voilà, en 2005, donc j'ai travaillé tout de suite dans le dessin animé, dans une boîte à Angoulême, et j'ai travaillé pendant quelques années, et donc, je suis partie en Thaïlande, et en fait, pendant tout ce temps, je dessinais plus. Voilà, je dessinais plus, j'étais dégoûtée par le dessin, pas parce que j'aimais plus ça, mais parce que à l'école, j'ai été confrontée à des gens qui étaient tellement doués, qui étaient tellement... c'était hallucinant, donc ça m'a complètement fait perdre ma confiance en moi, et je me suis dit, non, mais j'y arriverai jamais, je change de métier, enfin, fais autre chose. Et donc, je suis partie dans le dessin animé 3D, parce qu'en fait, la 3D, bah, c'est en fait un petit peu... t'es un exécutant, quoi. Tu travailles sur un ordinateur, tu fais ce qu'on te demande, et voilà, mais ça me plaisait pas, c'était pas ça, il y avait pas de créativité, vu que tout était déjà fait, donc j'étais très malheureuse. Enfin, même si c'était chouette, j'avais des super collègues, mais j'étais pas épanouie.
Ouais, c'était pas ta place, d'accord. Et donc, quand, là, tu parlais de la... J'allais dire compétition, c'est pas tellement le bon terme, mais de la comparaison avec tes collègues de promo quand tu étais à l'école. Sur Instagram, ça peut vite faire ça aussi, parce qu'en fait, c'est la porte ouverte à quand même énormément de gens qui sont très talentueux. Comment tu as des conseils pour gérer ça?
Alors, mes conseils pour gérer ça, ça serait d'essayer de plutôt... Ah, c'est compliqué, mais plutôt les voir comme une inspiration, comme plutôt voir ça comme quelque chose de reboostant, plutôt que quelque chose qui démoralise, en fait, parce que souvent les illustrateurs qui nous inspirent, qui sont des tueurs, c'est souvent quand on débute et qu'on voit ça, ça peut être démoralisant, mais il faut pas oublier que ces personnes, elles sont pas là, elles sont pas arrivées là où elles en sont comme ça du jour au lendemain, et que chacun est là où il en est. Et que ça demande du travail, et voilà, faut pas oublier ça, faut pas oublier où on en est, nous, et pas trop se comparer, tous les parcours sont différents, tous les talents sont différents, j'aime bien dire qu'on n'est pas en compétition, qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, à partir du moment où on est vraiment déterminé, qu'on fait ce qu'il faut, et que voilà, on fait preuve de ressources aussi, enfin, le fait de se relever, de dire bon là ça a pas marché, qu'est-ce que je peux faire d'autre, enfin voilà, c'est tout ça en fait, ce métier là et alors je parle que du métier d'illustration parce que c'est celui que je connais, mais je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines créatifs aussi, le fait de pas abandonner au premier obstacle et de se relever et... Voilà, je divague un peu, mais la comparaison, oui, ça peut être dur, mais je pense que sur Instagram, par exemple, typiquement, je pense que c'est bien de discuter avec les personnes, poser des questions aux personnes qui nous inspirent, leur demander des conseils, etc. Enfin, voir plus ça comme des gens qui sont inspirants plutôt que des gens qui sont vos concurrents, en fait. Enfin, on est, ouais. On n'est pas en compétition, on peut vraiment travailler tous ensemble. C'est peut-être un petit peu utopique ce que je dis, mais je pense vraiment que il y a beaucoup plus d'illustrateurs aujourd'hui qu'à mes débuts, mais je pense que c'est pas un frein, en fait, parce que ouais, je pense pas que ça soit un frein.
Il y a du besoin.
Ouais, il y a du besoin, et puis même sans, il y a un tri qui se fait naturellement entre les vrais motivés déjà, ceux qui sont capables de ceux qui font que ça aussi, parce que quand on fait que ça, du coup, ce que je disais, quand on n'a pas de filet, en fait, bah du coup on va faire que ça, et forcément on va être obligé de y arriver, quoi. Après, t'en as qui font ça de temps en temps, qui au bout d'un moment le font plus. Enfin, voilà, il y a plein de cas de figure. Du coup, finalement, ça s'épure tout seul, je pense. Ouais. Et dans tous les cas, tous les styles sont différents, et il y a plein de besoins différents dans plein de domaines différents, de plus en plus, quoi. Enfin, le digital, ça s'étend, c'est de plus en plus. Ça se développe de plus en plus, donc.
Ouais. Et ça reste en plus moins cher de créer des illustrations, de faire créer des illustrations. Enfin, donc de faire travailler des illustrateurs plutôt que de faire travailler des photographes.
Ouais, alors ça, par contre, je suis pas sûre que tout le monde en soit conscient, parce que malheureusement, ça fait peur, je pense, l'illustration pour certains.
Pour des annonceurs, pour des agences de com ou de pub, tu crois que ça fait, ça leur fait peur?
Pourrais te poser la question à d'autres illustrateurs qui ont déjà été dans cette situation, mais moi ça m'est arrivé plein de fois où pour des projets comme souvent des projets de pub, où souvent les agences proposent plusieurs pistes aux clients, histoire d'avoir tout. Ouais. Et en fait, souvent on est en concurrence avec une piste photo. Voilà, on va jusqu'au bout du truc et tout, et en fait la piste photo est privilégiée à la fin, ça c'est, mais alors dans 99% des cas, mais c'est vraiment typique de la France, parce que par exemple dans d'autres pays, en Angleterre par exemple, il y a énormément d'illustrations, il y a énormément de, enfin aux États-Unis aussi il y en a plus, enfin voilà, et en France on est encore pas mal frileux dans l'illustration, dans la com, en tout cas dans la pub.
Et est-ce que tu penses que ça peut être aussi lié au secteur d'activité, par exemple, si c'est un projet plus corporate, peut-être que ça change les choses ?
Je fais aussi ça m'est déjà arrivé de faire du corporate, en fait, avec mon agent, et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment un besoin dans ce secteur, ça fait partie des secteurs, justement, qui sont demandeurs, effectivement, d'illustration.
Ouais. D'accord, ok. Et alors, comment tu as démarré la collaboration avec un agent ? Parce que je pense que ça doit faire rêver un max de gens de se dire tous les aspects un peu pénibles d'aller se vendre auprès d'une entreprise, auprès d'une marque, d'un annonceur. Du coup, c'est pas à moi de le gérer. C'est génial, quoi.
Au-delà de ça, en fait, c'est même carrément... Même en voulant se vendre, il y a vraiment des clients qu'on pourrait pas atteindre, que je pourrais pas atteindre seule. Même aujourd'hui, si demain je me retrouve sans agent, je sais qu'il y a des agences avec qui je pourrais pas travailler, parce que les agences, il y en a plein qui préfèrent travailler avec des agents qui proposent un panel d'illustrateurs pour pouvoir rentrer dedans, plutôt qu'un illustrateur seul, où là, ils pourraient garder, par exemple, si moi je leur envoyais mon book et que ça les intéressait, ils le garderaient dans un coin, mais ils n'auraient pas l'idée forcément après d'avoir le réflexe de me chercher moi au moment où ils auraient un projet qui demanderait moins d'illustration, etc. Donc du coup, un agent, c'est vachement bien pour ça, et c'est ce que fait mon agent, moi par exemple. Et alors, pour le trouver, ça a été mon deuxième, en fait, parce que la première fois j'étais chez un autre agent, tout simplement en envoyant mon book, et donc mon premier agent, en fait, c'était une déception totale, parce que au bout de 6 mois, il m'a trouvé aucun travail, aucun, alors que dès que j'ai eu je suis sortie du rendez-vous avec eux et que ils avaient accepté ma candidature, j'étais mais comme une dingue, j'étais contente, je sautais partout, sauf que la déception était vraiment dure, quoi. Je pensais que ça allait décoller à ce moment-là, et non, pas du tout. Du coup, avec Collagène, je continue à envoyer mon book à plein d'agences, en regardant un petit peu dans quelle agence je pourrais correspondre, à quelle agence, parce que par rapport à toutes les agences ont leur spécialité.
Ouais.
Et en fait, j'avais aucune réponse. Et puis un jour, Anne Crécy, qui est une illustratrice qui était chez Collagène avant moi, Je sais plus pourquoi on était en contact pour autre chose. Et en fait, elle me dit qu'en fait, elle avait discuté avec donc Collagène, un des agents de Collagène, qui leur avait dit qu'ils avaient vu mon book et qu'ils adoreraient travailler avec moi. Je me dis, mais attends, c'est quand même bizarre. J'ai envoyé mon book et ils m'ont jamais répondu. Du coup, dans la foulée, j'ai pas perdu une seconde, je leur ai re-renvoyé mon book. Et là, bah, direct, ils m'ont répondu. Et puis, on a eu un rendez-vous. Et puis, voilà, quoi. Ça a commencé comme ça.
D'accord.
Vraiment une question d'opportunité, quoi.
Ouais, mais surtout de se donner les moyens de chercher cette opportunité. Parce que on a toujours un peu le sentiment que, et certainement à raison, les personnes ont été contactées. Et moi, j'essaye aussi de montrer que ça peut fonctionner dans l'autre sens, que c'est parce que toi, tu vas démarcher les gens avec lesquels tu voudrais travailler que ça peut marcher.
Bah oui, bah il faut. Je pense que c'est effectivement la plupart du temps ça se passe peut-être dans l'autre sens, mais enfin faut pas hésiter à essayer parce que enfin qui ne tente rien n'a rien et que ouais. Oui ça peut marcher quoi sur un malentendu. non mais franchement faut pas avoir peur, faut essayer. On sait jamais en fait. On n'a pas la réponse, donc il faut essayer.
Ouais.
Et puis, voilà.
Et est-ce que c'est ton agent qui t'a trouvé l'émission pour Stella McCartney? Parce que moi, je suis hyper fan de Paul McCartney. Alors, je sais que c'est pas la même personne, mais c'est la même famille. Donc forcément, je vois Stella McCartney, ça me fait des étoiles dans les yeux. Alors, je suis plus musique que mode, mais voilà. Et j'en profite pour faire un coucou à Marie, des Tribulations de Marie, qui adore Paul McCartney, je crois, autant que moi. Et voilà, ça lui fera plaisir, la référence.
Ah, j'adore les Beatles aussi, mais... non, pas du tout. Là, pour le coup, à côté de ça, c'est vrai que donc j'ai des contrats avec Collagène. Par contre, à côté de ça, c'est vrai que j'ai développé depuis pas mal d'années, depuis le début, j'ai vachement travaillé sur mon référencement de mon site, ma visibilité en ligne. Et j'ai tout, enfin voilà, depuis que j'ai commencé, ça a vachement changé. À l'époque, il y avait MySpace, il y avait Instagram, etc. Donc, ça a énormément évolué. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et je pense que, enfin, je suis contente de m'y être intéressée parce que aujourd'hui, j'ai vraiment un site qui est visible, qui est facilement trouvable sur le net. Et je pense que ça joue quand même pour avoir ce genre de proposition de temps en temps. Et là, effectivement, c'est la McCartney, enfin son équipe, qui m'a contacté pour participer à ce défilé et dessiner en live des modèles. Voilà, c'est vraiment magique. C'était après à l'Opéra Garnier. Par contre, c'est hyper rapide en fait un défilé, on se rend pas compte,
c'est vrai,
ça passe en une minute quoi. C'est déjà fini en fait. Bah oui, ça va. C'était presque décevant, mais j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Mais non, c'était vraiment génial.
Ouais, j'imagine.
Et après, j'étais dans les backstage avec les modèles, donc là j'ai eu un peu plus de temps. Voilà.
D'accord. Et c'est quoi le projet le plus dingue que t'aies fait? C'est ça ou il y en a d'autres un peu hallucinants comme ça? Parce que de dire que tu vas dessiner pendant un défilé, c'est génial, quoi.
Ouais, je pense que c'est quand même le plus fou que j'ai pu faire. Et puis surtout, c'est hyper flatteur. Et en plus, j'avais reçu la petite invitation, tu sais. Des invitations un peu... voilà. Et en fait, là, c'était un truc carrément avec un néon, un truc en carton avec un néon welcome, je sais plus quoi. Enfin, je l'ai gardé, c'est juste une dinguerie d'avoir. Donc ouais, je suis hyper fière de ça. Mais sinon, j'ai eu l'occasion de travailler pour un autre truc qui était dingue aussi, qui est pas non plus par mon agence, c'est d'avoir fait dessiner en live dans la boutique parisienne de Kate Spade.
Ouais.
Et Kate Spade, c'est une des marques que j'adore vraiment. Et donc c'était vraiment chouette. En plus, c'était la première fois que je dessinais en live. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire, malgré que ça soit quelque chose qui est assez demandé finalement. Mm-hmm. Mais je refuse parce que déjà c'est pas hyper bien payé et que ça demande beaucoup de temps et que bah, tout simplement dessiner en live c'est pas ma spécialité. On va pas se mentir. Je suis plus à l'aise à dessiner chez moi. Mais du coup là j'avais accepté parce que c'était une marque que j'adorais. Et c'était vraiment génial, super ambiance, tout le monde était génial. Enfin c'était vraiment fou.
Et alors, il y a une question qui revient souvent, enfin que je pose souvent et j'ai quand même régulièrement la même réponse. Est-ce que toi, tu es confrontée au syndrome de l'imposteur alors que c'est ta formation initiale, c'est ton métier quoi? Du coup, peut-être pas.
Alors du coup, ce syndrome de l'imposteur, je l'avais justement au début. Tu sais, parce que justement, j'ai arrêté de dessiner pendant 3 ans, justement, parce que je me dis, non, laisse tomber, t'es trop nulle, enfin, t'as pas le niveau, etc. Et finalement, j'y suis revenue en me disant, bah, tant pis, je dessine pour moi. Et en fait, finalement, j'ai repris confiance en postant sur le net, etc. Donc, ça m'est revenu comme ça. Donc, je n'ai plus vraiment ce syndrome de l'imposteur. En plus, c'est vrai que c'est gratifiant d'avoir un agent, tout ça. Pas que je me pose pas de doute que j'ai pas de doute hein, surtout j'en ai toujours des doutes, je me remets toujours en question sur mon style, sur c'est faut toujours évoluer et moi ça fait déjà 10 ans donc faut que je me renouvelle en fait, tu vois, j'ai des doutes là-dessus, remets en question là-dessus. Mais par contre en ce moment, j'ai plus des doutes sur l'écriture, sur le blog, sur tout ça et j'ai plus de problèmes de doutes en matière de ma légitimité par rapport à tout ça aujourd'hui. C'est plus ça qui me voilà.
D'accord. Ouais, vraiment sur le côté écriture.
Ouais, bah le fait que j'ai
Sur
mon
mes
blog et que
conseils.
je donne des conseils, ouais, voilà,
Ouais,
surtout sur
d'accord.
le côté de donner des conseils parce que oui, c'est plus pour ça. Après, pour mon métier, voilà, je sais répondre à une commande et j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Par contre, c'est vrai que donner des conseils, c'est pas toujours évident. L'illustration, c'est tellement vaste comme métier, il y a plein de
Ouais.
marques différents et tout, donc des fois, tous mes conseils que je pourrais donner ne sont pas forcément adaptables à tous. Et on me voilà, donc c'est pas des fois je tique un peu là-dessus,
Ouais.
mais du coup j'essaye de faire plus de recherches et de m'améliorer. Voilà.
Ouais. Et alors dans ton kit de l'illustratrice organisée, j'ai vu que tu listais dans les choses à compléter les rêves et opportunités. Toi, c'est quoi tes rêves et tes opportunités?
Bah justement, tout à l'heure, je parlais de revenus passifs et bah moi, mon rêve, ce serait de créer une formation. Là, du coup, j'en ai énormément parlé.
Ouais,
J'en parle
j'ai vu.
beaucoup. Et c'est sur quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Et du coup, qui pourrait aussi me permettre, hormis le fait d'aider des illustrateurs, j'espère. En tout cas, je fais vraiment ça dans ce but-là. Hormis ça, ça me permettrait d'avoir un revenu passif en plus de mes revenus d'illustratrice. Et donc, c'est vraiment chouette parce qu'encore une fois, j'arrive à un âge où j'ai
Et attends, tu es hyper jeune, hein, tu es plus jeune que moi, je t'interdis de dire qu'à 38 ans, on est vieux.
Non, mais encore une fois, je me compare avec. Je me revois comment j'étais il y a 10 ans, tu vois, et j'avais pas les mêmes rêves, les mêmes attentes. Et
Ouais.
aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus envie d'avoir du temps pour moi. Voilà, encore une fois, je reprends la métaphore du hamster dans sa roue, pardon. Et voilà, j'ai plus envie de ça. Et du coup, je pense que de développer des revenus passifs, c'est une bonne manière de continuer à dessiner, de faire ce qui me plaît, tout en n'étant pas complètement dépendante de ça.
Ouais,
Voilà. Et
je
toujours faire de
comprends.
la photo, faire d'autres choses à côté, tu vois.
Donc ça, c'est tes prochains challenges de cette
Ouais,
année
exactement.
2020,
C'est mon
formation.
principal challenge. Ça, et j'aimerais refaire mon portfolio et faire plus de photos. Voilà. Et m'améliorer.
Okay. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Tous ceux que tu donnes sur ton blog,
Mes débuts.
certainement.
Ouais, alors il y en a plein, mais alors bah, enfin que j'aurais aimé qu'on me donne, pas forcément, mais par contre aujourd'hui je vois beaucoup d'illustratrices qui sont illustratrices graphistes et je pense, alors je pense qu'en fait le fait de justement d'avoir deux casquettes, ça peut freiner en fait à faire évoluer l'une ou l'autre activité en fait. Et du coup, moi,
D'accord.
c'est vrai que entre quelqu'un qui hésite entre les deux, je dirais d'en choisir qu'un et de foncer, quoi. Parce que je pense qu'on peut être. Je pense que pour donner le meilleur de soi-même, il faut vraiment se concentrer sur une seule chose, en tout cas au début. Et après, une fois que ça
Oui,
commence à
à se
monter,
diversifier après.
pourquoi pas étendre. Mais je pense que, en fait, le graphisme et l'illustration, pour moi, ça n'a rien à voir. Et le problème, d'ailleurs, moi, du coup, j'ai pas une formation de graphiste, donc du coup, pour moi, c'est clair et net que ça n'a rien à voir. Par exemple, je ne sais pas faire un logo, enfin, j'en ai fait pour moi, mais c'est pas du tout quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Et du coup, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes.
Oui, c'est vrai.
Et souvent, en fait, du coup, ça crée une confusion parce que, par exemple, on va me dire, ouais, d'après toi, c'est quoi le prix d'un logo d'illustration? Enfin, le prix d'un logo et le prix d'une illustration, ça ne se calcule pas de la même façon, en fait. Donc, du coup, il y a une confusion par rapport à ça. En fait, qui vient tout simplement du fait que ces deux métiers ont tendance à être fusionnés, et alors que c'est deux métiers différents.
Ouais, je comprends.
Et en plus de ça, je rajouterais que il y a beaucoup, enfin, parfois, c'est vraiment une béquille, en fait, le graphisme, parce que des fois, je vois des illustratrices qui ont un trait, un truc de ouf, mais qui, à côté, le graphisme, ben, c'est moins bien, et je trouve que ça la descend, du coup.
Ah oui, le niveau global, ouais.
Mais après, chacun a un parcours différent, mais voilà.
Et est-ce que ta créativité a eu un impact sur tes proches ? Est-ce que tu as déchaîné des passions autour de toi ?
Non, pas encore. Par contre, dès que j'entends quelqu'un qui me parle qui a envie de se lancer, je pense à une copine là, qui travaille dans des bureaux, mais qui rêverait de faire un travail manuel et qui n'ose pas. À chaque fois que j'entends ce genre de choses, je ne peux pas m'empêcher de l'encourager, cette vocation. Ouais, parce que je trouve que c'est beau, en fait. Et je pense que, justement, on se met tellement des barrières, on a tellement des a priori sur tous ces métiers-là, que je me dis, voilà, enfin moi j'aime bien, genre, j'ai tendance à encourager et à dire aux gens de se lancer, de pas hésiter, quoi.
Ouais. Mais est-ce que le principal frein, c'est pas aussi la notion d'argent et de salaire ?
Mais alors.
Peut-être que c'est un prisme que j'ai qui est pas le bon, mais j'ai la sensation qu'on s'autorise pas aussi à faire ce genre de métier en disant, bah oui, on va pas arriver à en vivre.
Après, je conseillerais à personne de quitter son boulot du jour au lendemain. Enfin, tu vois, genre, si une personne est salariée, etc. Mais par contre, si elle a ce rêve de devenir illustratrice, ou enfin, je parle d'illustration parce que c'est mon métier, bah, de commencer à réfléchir à un plan, en fait, de se dire, de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer à échafauder un plan qui va me permettre, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, même dans 2 ans, de devenir illustratrice et de me lancer sans avoir cette crainte des revenus qui rentrent, tu vois. Je dis, enfin voilà, tu vois, tout le monde est différent et ça peut mettre plus ou moins du temps, mais si vraiment c'est quelque chose qui vous savez que si vous le faites pas, ça vous allez regretter toute votre vie. Je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir et de commencer à vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire pour que ça arrive, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, hein, pour se donner toutes les chances, mais en tout cas, je trouve ça trop bête de passer à côté d'un rêve qui est vraiment fort et.
Ouais, c'est vrai. c'est quoi tes sources d'inspiration ?
Mes sources d'inspiration. C'est une vaste question. J'aime beaucoup la mode. Je trouve que la mode, c'est vrai que pourtant, moi, je m'habille simplement. Je suis pas du tout quelqu'un. J'ai une vie hyper simple, mais par contre, j'adore les photos de mode, les défilés, tout ça. Je trouve ça absolument fascinant. J'adore. Ça m'inspire beaucoup. Après, bah, de plus en plus par la nature. Je suis de plus en plus inspirée par la nature, les fleurs, tout ça. Les choses simples, finalement. Enfin, plus ça va, plus je me suis inspirée par des choses naturelles. Bah, j'ai toujours été inspirée par les choses organiques, naturelles, au niveau des textures. J'aime bien tout ce qui est texture. Ça se traduit aussi bien dans mes photos que dans mes dessins. J'aime bien mettre beaucoup de textures dans mes illustrations. Et beaucoup de coups de crayon. Voilà, j'aime bien qu'on sente la pâte, le truc, le grain.
Dans
les photos aussi, j'aime bien rajouter plein de choses, du bois, des lainages, plein de choses pour que ça soit authentique, ça soit chaleureux.
Ouais, qu'il y a un peu de relief.
Donc ça se rejoint.
Très bien. Est-ce que aujourd'hui, tu as quel rapport avec la vidéo ?
Alors, je sais pas si tu sais que je faisais pendant plusieurs mois, je sais pas combien de temps, des lives tous les mardis soirs.
Alors, j'ai vu ça effectivement, mais moi je suis arrivée un petit peu après, je pense. Oui. Pour le coup, la vidéo, je sais pas trop d'où ça vient, mais j'ai assez du mal. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ma question, en fait, c'est es-tu plutôt vidéo ou texte, par exemple, dans les tutos ou dans les sur Instagram, etc. Parce que moi, je sais pas, j'apprécie beaucoup plus de lire ou d'écouter que de regarder.
Ah d'accord, donc tu parlais plus en tant que spectateur que...
Non, alors je pensais aussi à ta pratique d'Instagram. Est-ce que, tu vois, par exemple, ce qui marche beaucoup sur Instagram, c'est se filmer pendant qu'on est en train de faire son art. Donc de dessiner, de broder, de peindre, etc. Ouais. Et donc, c'était aussi sous cet angle-là.
J'en fais de temps en temps, me filmer quand je dessine, etc. Par contre, c'est vrai que ça prend du temps. Et en fait, je trouve que du coup, t'es tout le temps en train de regarder si ça a bien enregistré, si machin. Et en fait, moi, j'aime bien quand je dessine, bah, ne pas m'arrêter, tu vois, en fait, parce que c'est ouais. là où tu prends le plaisir, c'est quand tu vois que t'arrives à un résultat, que c'est fluide. Si tu dois tout le temps t'arrêter pour dire mince, je suis arrivée au bout des stories, là, ou quoi. Enfin, je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas très amusant. Ouais. Et après, au niveau de... Je sais pas si tu voulais... Je pensais que c'était de ça que tu voulais parler au début, de me filmer moi, de me voir moi. Je sais pas si c'était quelque chose
alors,
que tu...
Si, si, vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que donc, là, du coup, tu as arrêté, pardon?
Ouais, j'ai arrêté les live hebdo parce que du coup, je veux vraiment me concentrer sur ma formation. Et en fait, l'an dernier, pendant plusieurs mois, je faisais un article toutes les semaines sur mon blog, plus un live hebdo le soir... plus une newsletter le lendemain, et ça, plus mon boulot à côté, et en fait, plus la création de ma formation, et en fait, du coup, ça faisait un petit peu trop pour moi, je me suis rendu compte que je m'éparpillais, et même si c'était chouette à faire, je me suis rendu compte que c'était un peu trop, donc j'ai décidé d'arrêter les lives hebdo et les articles pendant un moment, je reprendrai sûrement à un moment donné, mais pour l'instant, j'arrête, et donc oui, tous les mardis, j'étais en live, et comment te dire, j'ai commencé sur Insta, en Insta Story. En live, enfin, je sais plus comment ça s'appelait, et c'était hyper flippant, franchement, mais j'en avais des nœuds au ventre, enfin, c'était horrible, et les premières fois, c'était horrible, c'est-à-dire que je buguais de ouf, j'arrivais pas à trouver mes mots, il y avait rien, enfin, voilà, je buguais, j'avais l'impression que tout le monde allait voir que ça, et en fait, je me rends compte que, petit à petit, tu te rends compte que les gens, finalement, ils font pas tant gaffe que ça. Et finalement, à force, après je me suis mise sur Facebook, donc avec ma webcam, et finalement, à force, bizarrement, j'ai commencé à être plus à l'aise, et voilà, et à chaque fois, forcément, je regardais un petit peu ce que je faisais, je disais, là, ça aurait été bien que je souris un peu plus, ou tu vois, ou des trucs comme ça, et en fait, finalement, je suis un peu plus à l'aise, après, je te dis pas que je suis... hyper à l'aise, hein. À chaque fois que je faisais un live, j'avais les chocottes, tu vois. Mais par rapport au début, c'est vrai qu'il y a eu un réel progrès. Et en fait, franchement, je trouve que je l'ai vraiment fait pour ma communauté, pour proposer ce genre de contenu, parce que c'est différent du blog et tout. Et il y a plein de gens qui préfèrent la vidéo. Mais c'était pas pour moi, hein. À la base, que je faisais ça, c'était vraiment parce que je me disais qu'il fallait que je le fasse. Et finalement, ça m'a vraiment beaucoup appris sur moi. Et ça m'a vraiment... appris à m'accepter, en fait. C'est fou, hein. C'est cliché ce que je dis, mais c'est vrai, franchement. Même en photo, tu vois, je prends beaucoup plus de photos de moi qu'avant sur mon compte Insta, chose que je ne faisais absolument jamais au départ. Et ça, je pouvais pas me blairer, en fait. Je pouvais pas me supporter en photo. Non, vraiment, c'était... Et maintenant, voilà, quoi. Tu t'acceptes, voilà.
Ça, ouais, un vrai travail sur toi, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça aide. Par contre, le côté, j'ai toujours peur qu'on m'accuse de me trop montrer, ou tu vois, d'être comme une blogueuse, tu vois, qui...
Oui, d'être très égocentrée.
Voilà, ouais. J'ai toujours peur qu'on me dise que je suis égocentrique, mais quand je vois ce que font les autres, en fait, tout le monde fait la même chose, donc je me dis, allez, faut arrêter, faut faire avec.
Ouais, ok. Mais en tout cas, ça veut dire que c'était un bon moyen aussi, justement, d'être beaucoup plus à l'aise avec ton image. Ça t'a appris tout ça.
Ouais, vraiment.
Donc le conseil, c'est si vous êtes moyennement à l'aise avec votre image, allez-y, go, faut se lancer et ça ira mieux.
Après faut avoir une raison de le faire. Moi c'est vrai que j'étais c'était juste pour franchement oui, c'est un exercice qui à force, en tout cas si vous vous lancez, dites-vous que même si vous n'êtes pas à l'aise au début, à force, ça vient, vraiment, ça vient. Et je dis pas que je suis la plus à l'aise au monde aujourd'hui, mais même à parler, tu vois, je suis vachement plus à l'aise. Je bug plus, je cherche beaucoup moins mes mots qu'avant. Et c'est chouette de dire, il y a eu quand même une évolution en un an, parce que j'ai fait mes lives quasiment qu'à un an finalement. Il y a eu une évolution de fou, donc c'est chouette.
Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à l'écriture d'un livre? Est-ce que c'est important pour toi et est-ce que c'est un peu un graal?
Alors non, pas du tout. Je suis pas dans ce truc-là de livre parce que j'aurais trop peur en fait que ça soit que je puisse pas faire exactement ce que je veux faire en fait. Tu vois, si on me promettait de me dire tu fais un livre de A à Z avec tout l'intérieur, le graphisme, tout de moi, pourquoi pas? Mais par contre, si on vient me chercher avec une idée pour faire quelque chose et que je pourrais que gérer la partie, enfin que je pourrais pas tout gérer, genre le graphisme et tout. Même si je suis pas graphiste, tu vois, j'ai quand même un œil
bah
là-dedans.
Oui, forcément.
Et j'aime bien ça, donc je serais malheureuse si je pouvais pas tout gérer de A à Z. Donc pour l'instant, non, franchement, enfin pour l'instant, c'est pas du tout un graal ni une idée que de projet que j'ai.
D'accord. Ça marche. Bon. Et ta plus grande fierté aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, au-delà de mon métier d'illustratrice, ma plus grande fierté, c'est quand même de ma communauté, la communauté qui me suit, notamment sur ma newsletter. Je pense que j'ai une communauté de personnes qui me suivent, qui lisent toutes mes newsletters, etc. Et ça me fait toujours énormément plaisir parce que je sais que c'est... Voilà, c'est autre chose que les réseaux sociaux, la newsletter, c'est plus intime, comme je le disais tout à l'heure.
Ouais,
c'est des personnes qui vont contacter, avec qui je vais avoir des vrais échanges, mais je peux en avoir aussi sur Instagram, hein, c'est pas...
Mmh.
Mais je trouve que sur la newsletter, il y a un rapport plus intime, parce que c'est la boîte mail, et je sais pas, c'est différent. Et en tout cas, j'adore apporter du contenu et développer cette communauté qui est aussi sur Facebook, parce que j'ai créé un groupe privé Facebook.
D'accord.
Voilà. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté aujourd'hui.
Et est-ce que tu as réussi à gérer, on parlait aussi d'équilibre au départ, est-ce que alors j'imagine que tu n'as pas trop de notifications d'Instagram, parce que sinon ça n'arrête pas, mais voilà, comment tu gères ce côté un peu incessant d'Instagram ou des sollicitations d'ailleurs, quelles qu'elles soient en fait, par email comme tu disais, en réponse à ta newsletter, ou les messages privés, les commentaires, etc. Comment tu gères ça? Est-ce que tu te gardes un temps ou plusieurs temps dans la journée pour faire ça, ou est-ce que c'est un peu au fil de l'eau quand tu as envie de faire une pause?
Alors un petit peu des deux en fait. Les mails, généralement j'y réponds après ma pause déj. J'essaye de... Voilà... D'ailleurs, en ce moment, j'ai un peu du retard, mais voilà. Mais ouais, sinon, les messages sur Insta, j'essaye de pas trop les regarder, mais c'est pas toujours facile. Des fois, je suis hyper sérieuse avec ça, j'arrive à me tenir, à pas regarder mon téléphone, etc. Mais c'est souvent, tu sais, quand t'as posté une photo, j'ai du mal à pas regarder après, pendant plusieurs heures, j'ai envie de regarder, voir si j'ai des commentaires, des likes et tout. Et du coup, tu regardes tes messages, enfin voilà. Mais en tout cas, je sais que le matin, c'est vraiment ma période de focus. Donc, j'essaye vraiment de me dire, allez, t'as prévu de faire ça aujourd'hui. Donc, si tu le fais pas après, le reste, ça va être en retard et tout, machin. Donc, j'essaye de m'autodiscipliner comme ça et de me mettre des coups de pied, parce que sinon, on n'y arrive pas, quoi.
Et alors, ce matin, justement, tu as publié une photo d'un beau café, un latte, c'est ça? Alors, je bois pas de café, alors j'y connais rien.
Non, c'est un cappuccino.
Un cappuccino avec un petit cœur. Et en disant que finalement, ta journée idéale commencerait par le fait d'aller dans un café, prendre le petit-déj et démarrer comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée type? Et alors, peut-être un peu idéale, mais ta journée type, ça ressemble à quoi?
Ma journée type, en fait, comme je travaille de chez moi, donc du coup, ma journée type, c'est de travailler toute la journée de chez moi. En général, je prends toujours une pause après manger, parce que entre midi et 16h, je ne suis pas au top de ma concentration. Donc, ça dépend, en fait. Là, je varie, en fait, en fonction de mon état de fatigue et tout. Des fois, je travaille d'une traite, des fois... Je m'autorise des pauses quand il fait beau, tu vois, en ce moment, par exemple, aujourd'hui, je suis sortie plusieurs fois dans la journée, enfin, voilà, mais mes journées type, c'est ça, c'est alors 8h midi, 14h, 17h, voilà.
Voilà. Ah bah, comme au bureau, quoi.
Mais après, je te dis, je m'autorise aussi de plus en plus à varier mes horaires, alors pas le matin, j'essaie d'être vraiment... carré, parce que c'est vraiment le moment où je suis hyper concentrée, où j'arrive à faire le plus, où je suis vraiment productive en fait. Donc si j'ai réussi ma matinée, c'est cool. L'après-midi, je sais que je vais pouvoir un petit peu plus me lâcher, faire d'autres choses, m'autoriser à sortir, voilà. Mais ouais, j'essaie de au moins le matin à fond, et l'après-midi, ça dépend. Voilà.
D'accord. Et le fait d'être freelance à ton compte, ça veut dire que normalement, tu peux être plus flexible sur tes horaires qu'un salarié lambda. Ouais. Est-ce que ça, t'arrives vraiment à en jouer, entre guillemets, à avoir les bénéfices, ou du coup, c'est plutôt justement que les inconvénients je crois que c'est toi qui avais publié aussi que ces derniers jours, t'avais dû travailler le week-end alors que tu t'étais promis de le faire.
Ouais, alors ça c'est des. En fait, j'ai eu un projet qui était très. Je savais que la deadline était très très serrée en fait, mais je l'ai accepté quand même, voilà. C'est un choix et du coup, j'ai travaillé. En fait, j'avais 8 portraits à faire en mercredi, jeudi, vendredi, en 3 jours. Et du coup, comme je dessine, je prends quand même du temps pour dessiner. C'était pas évident et en plus de ça le final était à rendre vendredi soir et finalement ils se sont rendus compte à la dernière minute que en fait on va changer une photo du coup le rendu final est dimanche d'accord bon voilà donc je vais travailler voilà après c'est vraiment exceptionnel mais voilà c'est pas quelque chose en général le week-end moi j'en profite pour vraiment me reposer pour prendre l'air pour faire des choses cool comme aller au marché, aller me promener dans les rues de Paris. Enfin, j'ai la chance d'habiter à Paris. Enfin, je trouve que c'est une chance. Et j'adore me promener dans les rues de Paris, etc. Donc, pour moi, le week-end, c'est fait pour ça et pas pour travailler. Et pour répondre à ta question, oui, je travaille sur le fait de m'autoriser à bousculer mon emploi du temps et à m'autoriser des pauses comme j'ai pu le faire ce matin. Je suis c'est un processus qui est en cours.
Work in progress.
Voilà, exactement.
Ok. Peut-être pour terminer, on n'a pas parlé du matériel que tu utilises. Alors, simplement pour dire que tu n'utilisais pas Procreate et que tu dessinais encore sur du papier. Est-ce que tu as des conseils, soit dans le choix de marque ou de matériel précisément, ou simplement sur... des fois, on a l'impression qu'on ne progresse pas dans notre art parce qu'on n'a pas les bons outils. Est-ce que c'est des excuses ou est-ce que vraiment il y a des must-have par exemple, je ne sais pas, sur les crayons. Dis-nous, qu'est-ce que tu conseilles ?
Alors, oui et non. Est-ce que c'est une excuse ? Oui et non. Moi, je sais qu'au début, je travaillais avec du beau papier, etc. Tu sais, je dessinais au feutre fin et au crayon de papier. Et en fait j'utilisais du beau papier, ça me coûtait une fortune, etc. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte que je pouvais très bien utiliser du papier mâché. C'est horrible ce que je dis, mais quand on travaille, quand on est illustratrice et qu'on dessine à la chaîne, ça devient compliqué d'acheter du beau papier, etc. Et suivant la technique, pour du crayon de papier, faut quand même un papier minimum qui accepte, peut-être pas un papier trop fin, mais par contre pour le feutre fin, ça marchait bien. Par contre, pour l'aquarelle, c'est vrai qu'il a, par contre, il faut du vrai papier aquarelle, sinon ça marche pas du tout. Donc, en général, du papier 300 grammes minimum avec un grain fin. Enfin, moi, je préfère parce que du coup, quand on scanne, ça évite, tu sais, qu'il y ait des creux. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Après, au niveau des pinceaux, essayer de prendre... pas forcément d'en acheter beaucoup, mais d'acheter genre 3 pinceaux, un fin, un moyen, un gros, mais de la qualité, par contre, parce que moi, j'en ai, enfin, après, il y en a qui se dévissent au niveau du bois, ou enfin, qui le plastique qui s'en va, enfin, bref. Donc, un minimum, en fait, investir un peu, peu, mais de la qualité, je pense.
Et tu es plutôt à acheter en ligne ou tu vas dans les magasins à côté de chez toi pour avoir aussi le conseil
Ouais, je vais beaucoup à côté de chez moi. J'ai un Bosner qui est juste au bout de ma rue. Donc, j'ai de la chance et du coup, j'ai tout le temps là-bas. Et oui, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des conseils. J'ai pas d'exemple là, mais je sais que ça m'arrive souvent de demander des conseils pour plein de choses. Et puis voir les produits en vrai aussi, surtout pour le papier. C'est bien de voir en vrai, je pense.
Ok. Bon, écoute, super. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, à moins qu'il y ait quelque chose que tu voulais ajouter.
Ben non, là, je vois pas comme ça.
on a déjà pas mal papoté. Bon, écoute, je te remercie énormément, Élodie, pour le... Voilà, merci pour ton temps. Et donc, on te retrouve sur Instagram et puis sur ton site.
Donc, c'est Elodie_, illustration avec un S.
Voilà. Et puis, ton site.
Ouais, le site, c'est Elodie_, cette fois-ci, illustration avec un S.net. et slash blog pour le blog.
Parfait, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie énormément encore d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Et puis à très vite pour un prochain épisode.
Ça marche. À très bientôt.
Merci, Elodie.
Merci, au revoir.
Me revoici. N'hésitez pas à aller dire bonjour à Elodie à la suite de votre écoute sur Instagram, et à moi aussi d'ailleurs. Ça nous fera plaisir à toutes les deux. Et par la même occasion, si vous voulez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes pour le podcast, vous m'aiderez à faire grandir la communauté autour du podcast et ça participera grandement à le faire découvrir. J'en profite pour faire un clin d'œil à toutes les créatrices qui réfléchissent à se lancer, comme Sabine du compte Instagram My Lovely Watercolor, et j'espère que cet épisode vous aura inspiré et donné envie d'entreprendre. Mille merci pour votre fidélité et à très vite !